Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand pour un nouveau numéro de cette émission que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est la fête à Europe 1 aujourd'hui. Nous gagnons 43% d'audience par rapport à l'année dernière pour Au cœur de l'histoire. C'est un résultat magnifique. Je vous avoue qu'avec toute l'équipe, nous sommes heureux et pleins de gratitude. Alors merci à tous nos auditeurs.
Il y a 250 ans aujourd'hui, le 15 avril 1764, mourait à Versailles la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV. Vous n'alliez sûrement pas laisser passer une telle date.
Eh ben non, je l'ai d'autant moins la laisser passer que Madame de Pompadour fait partie des quelques grands personnages historiques auxquels j'ai consacré le plus de temps. Elle était belle et gracieuse, intelligente, même brillante, mais surtout elle était extrêmement ambitieuse. Jeanne-Antoinette Poisson, titrée marquise de Pompadour par le bien-aimé, incarne à nos yeux tous les raffinements et toutes les audaces du siècle des Lumières. J'ai demandé à Evelyne Levert, qui est le meilleur biographe de cette grande dame, de venir nous aider à mieux la comprendre.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sophie sur l'origine du mot conclave.
Eh ben, nous voilà bien. Pour le moment, fouette cochée à Versailles, la marquise nous attend.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous avons passé près de 2 années ensemble. C'était au tournant du 21e siècle, je m'étais mis en tête, et c'était sans doute un défi trop audacieux pour un garçon de 30 ans, d'écrire les mémoires de Madame de Pompadour, qui n'avait pas eu le temps de laisser quoi que ce soit à la postérité. Des mémoires apocryphes, comme on dit. Pendant plus de 20 mois, j'ai donc écumé les fonds d'archives, dont certains peu connus, les recueils de lettres, les vieilles éditions de chroniques et d'anecdotes de cours, et les études et les thèses concernant cette femme hors du commun, c'est le moins qu'on puisse dire. À la fin, j'avais l'impression d'assez bien la connaître. Pas plus tard qu'hier soir, je me suis encore promené, grâce à la gentillesse de l'établissement public du château de Versailles, dans ses salons, dans ses petits appartements, dans ses couloirs et ses dégagements que vous avez fréquentés, chère madame, pendant près de 20 ans, dans ces pièces où Madame de Pompadour a tant souffert et tant jubilé. Vous voyez, je me mets parfois à m'adresser directement à elle. J'aime particulièrement l'appartement du 3e étage sur le parterre du Nord, qui avait été, avant de vous être dévolu, celui de la duchesse de Châteauroux. Il me semble que c'est là que s'est réfugié votre esprit, à présent que Crécy et Bellevue n'existent plus, que l'Élysée et Champs-sur-Marne ont un autre occupant, n'est-ce pas? Que Ménard et que l'hôtel des réservoirs ont perdu l'empreinte de vos rêves et de vos réalisations. Je me suis arrêté un long moment hier soir dans la belle chambre de l'appartement du bas, au rez-de-chaussée sur le parterre nord, celui que vous aviez d'ailleurs baptisé « Au Nord ». Dans cette chambre réaménagée pour la dauphine de Saxe, qui ne l'habitera jamais, et dont prit finalement possession Madame Adélaïde, fille de Louis XV, fille de votre roi, de votre maître, de votre grand ami. La chambre même où vous avez rendu votre dernier soupir, ce 15 avril 1764, dans la soirée, un prêtre était à vos côtés, il vous avait donné l'extrême onction, vous croyant assoupi, il allait se retirer sur la pointe des pieds quand vous l'avez retenu d'un murmure. « Allons, monsieur, restez, lui avez-vous proposé, nous partirons ensemble. » La maladie vous harcelait depuis des années déjà. Elle vous avait laissé en paix quelque temps avant de revenir en force le 7 avril de ce printemps froid et venteux de 1764. Comme je l'écrivais à l'époque dans le bal des Ifs, on vous a installé dans une bergère près de votre lit, vous suffoquiez déjà et ne supportiez plus d'être allongé. Bientôt, vous auriez du mal à trouver votre souffle. L'agonie allait commencer, douloureuse, inexorable, livide en dépit du rouge à vos joues, amaigrie sous les fichus dont on vous avait couverte, vous continuiez de recevoir un pâle sourire aux lèvres, l'hommage assidu de vos vieux amis, au premier temps, au premier rang desquels était le roi. Le 11 avril, on sut que vous étiez perdu. Le roi, en sortant de chez vous, s'enferma chez Madame Victoire avec ses autres filles. Le 13, il n'eut pas de peine à vous convaincre de recourir au sacrement. Vous ne luttiez pas et paraissiez accepter comme un soulagement votre fin prochaine. On fit venir Catelin, curé de la ville, l'évêque qui était votre paroisse à Paris, pour vous confesser. Le roi vint encore le 14 et ce fut votre dernier entretien. Rien ne devait filtrer de cet entretien. L'extrême onction vous fut donnée dans la nuit précédant le 15, dimanche des Rameaux. Le prêtre vous exhorta sans doute à unir vos souffrances à celles du Christ, dont la passion serait lue à la messe solennelle de ce jour-là. Le mal connut une rémission courte que vous avez mise à profit pour dicter à Colin, votre intendant, un codicille au testament de Rosbach. Il s'agissait de petits souvenirs, de gages d'amitié que vous souhaitiez laisser à vos proches. La tempête soufflait au dehors et des bourrasques s'engouffraient dans les escaliers du palais et dans les vestibules autour de vous. Les affaires de l'État conservaient leur train. Dans la matinée, le duc de Choiseul s'est présenté couvert d'un manteau de drap rouge assez inhabituel. Il y a fait disparaître un portefeuille contenant vos documents secrets. À partir de là, on n'avait de vous que des traces officielles. Avez-vous, en cette heure, encore la force de penser à la jeune femme qui, 100 ans plus tôt, dites-vous, qui 25 ans plus tôt, en vérité, en forêt de Sénart, tentait d'attirer l'attention du roi Louis XV, alors le plus bel homme de son royaume. En dame du voisinage, vous veniez installer votre voiture découverte à la croix de Villeroy, d'où partait invariablement la chasse du roi. On est au milieu de la clairière, et là on ne voyait qu'une personne, jeune et rayonnante, tantôt en robe rose dans un phaéton bleu, tantôt en robe bleue dans un phaéton rose, écriront plus tard les frères Goncourt. Le phaéton, pour les amateurs de belles choses, c'est une voiture légère et découverte avec des roues très hautes, l'équivalent aujourd'hui d'un coupé sport décapotable carrossé hors série par un grand designer. Quand on a de grandes ambitions, c'est comme ça, il faut savoir se donner de grands moyens. Parmi les seigneurs qui participent à la chasse, les questions vont bon train. Mais qui est-elle, cette jeune bourgeoise, cette Jeanne Poisson, pour être autorisée comme ça à suivre une chasse royale, pour s'y présenter en si brillant équipage, pour y faire elle-même si bonne figure? Ce qu'elle est, pour le moment, elle est surtout une sorte de marionnette entre les mains de gens influents, une marionnette tout à fait consentante, entendons-nous bien. Derrière elle, dans l'ombre, on peut dire qu'on seconde activement ses ambitions. Il y a là tout un petit lobby, comme nous dirions nous aujourd'hui, très puissant, qui appartient au monde lancé de la haute finance parisienne. Le noyau de ce lobby, ce sont des frères qui se sont fait une place au soleil dans le ravitaillement des armées. Vous comprenez qu'ils aient intérêt à posséder quelques pions bien placés dans les sphères du pouvoir. Quant à la cheville ouvrière du petit lobby, c'est un fermier général, autant dire un grand percepteur, qui s'appelle Monsieur Lenormand de Tournehem. À l'époque, on disait de Tournant. Vu sous cet angle, vous comprenez qui a commandé les phaétons, financé les toilettes et d'abord façonné la belle dame. Et oui, il y a longtemps que ces acteurs de l'ombre, comme de bonnes fées sur un berceau, s'occupent de la petite Jeanne, qu'entre eux, d'ailleurs, ils n'appellent que Reinette. Déjà tout un programme. Notre petite Jeanne est presque orpheline de père. François Poisson, son père, a été condamné pour prévarication. Il était employé par les fameux pourvoyeurs aux armées dont je vous parlais. Il a trinqué pour eux. Il a dû s'exiler pendant 9 ans. Et c'est Monsieur de Tournehem qui va protéger non seulement la mère, mais les deux enfants abandonnés. Il va donner notamment à Jeanne une excellente éducation, avec des maîtres à danser, à chanter, les gens les plus à la mode du reste. On lui prodigue des cours d'équitation. Bref, on va en faire une vraie dame du monde. Là où Tournehem a été quand même un peu plus loin que d'autres n'auraient pu le faire, c'est qu'il a réussi à marier la jeune femme à son propre neveu, histoire de lui donner un nom correct. Elle va devenir Madame Lenormand et bientôt Lenormand d'Étiole. Vous avouerez que c'est nettement mieux que Poisson. Ça lui a donné surtout des droits à sa succession. Il a doté sa protégée, il l'a imposée à sa belle famille, il est allé jusqu'à loger le jeune ménage chez lui, dans le faubourg, et ça n'est pas tout. Monsieur de Tournehem possède en forêt de Sénart une jolie propriété, Étiole donc, dont il a fait le fief de la nouvelle Madame Lenormand, qui se fera donc appeler Madame Lenormand d'Étiole. Tout ça prend tournure, elle a un joli théâtre de société où elle reçoit des gens tout à fait lancés, on organise autour de la maison un très beau jardin à la française, bref, Madame Lenormand d'Étiole va bientôt tenir son rang. Surtout, cette enclave sur la forêt royale lui donne statutairement le droit de suivre en calèche les chasses du roi Et là, on peut dire que le tour est joué. Le passage vers la cour est trouvé, un passage étroit sans doute, mais direct. Naturellement, le port de tête, les attitudes charmantes, les œillades de la belle Reinette vont faire le reste. Et là, heureusement, Monsieur de Tournehem ne peut pas jouer à sa place, même s'il ne manque jamais une occasion de la convaincre qu'elle est un vrai morceau de roi. Il faut vous dire qu'à cette époque, Louis XV a 32 ans, qu'il est déjà marié depuis plus de 15 ans à une femme plus âgée que lui, qui lui a fait 10 enfants. Or, c'est le sang chaud des Bourbons, c'est le sang d'Henri IV qui coule dans ses veines. Mieux, depuis un an, il n'a plus de maîtresse en titre, ce qui n'empêche pas, au contraire, les postulantes de se bousculer au portillon. N'oubliez pas qu'il est quand même le maître absolu de l'État le plus puissant de son temps. Problème, l'étiquette de la cour de France est extrêmement contraignante. L'intimité du roi est quasi nulle et l'un des rares moyens qu'ait trouvé Louis XV pour se faire de nouvelles connaissances, pour faire de nouvelles conquêtes, c'est de courir sans canailler incognito dans certains bals publics. Pour les gens informés, c'est presque trop facile. Monsieur de Tournehem, là, joue sur du velours. Il a suffisamment de contacts à Versailles pour connaître les habitudes cachées du roi. Il suffira de placer la Reinette le bonjour à la bonne heure au bon endroit. La belle a déjà été remarquée. On peut dire que l'un de ses endroits favoris, c'est le bal du Petit Écu, rue de Satory, à Versailles. La première fois, du reste, qu'elle va danser avec le roi, il semblerait qu'elle ne l'ait pas reconnue. Enfin, c'est ce que dit la tradition. Lui, en tout cas, la connaît, la reconnaît, et il va lui donner un nouveau rendez-vous pour un bal de cour. Alors, il faut imaginer le tourbillon autour de la jeune femme, les couturières, la modiste, la gantière qui s'affaire pour la rendre encore plus attrayante. J'ouvre là une petite parenthèse, il faudrait pas croire que Madame d'Étiolle soit la huitième merveille du monde. Au physique, et nous allons en parler tout à l'heure avec Evelyne Levert, elle était tout à fait jolie, mais elle n'était pas une grande beauté. Ça n'est pas du tout Madame du Barry, par exemple. Tout est chez elle dans la façon d'être, dans le caractère, dans la tournure, dans l'éducation. Monsieur de Tournehem suit pas à pas les progrès de sa protégée. Il l'entoure quand c'est utile, il veille à écarter les dangers de son chemin. D'ailleurs, on lui a adjoint une cousine par alliance, la belle comtesse d'Estrade, qui va en quelque sorte lui servir un peu d'alter ego. Il faut la débarrasser surtout de son mari, jaloux, le besogneux Charles Guillaume le Normand. Alors, on aide la petite autant qu'on peut, ce qui ne signifie pas loin de là qu'elle-même soit dépourvue de mérite. Tout au contraire, elle témoigne dans l'art de la séduction d'un savoir-faire digne des plus grands éloges. Chacune de ses rencontres furtives avec le roi est un point de marqué dans ses bals à répétition qui se succèdent pendant le carême, sous couvert de fêtes pour le premier mariage du dauphin. Je dis premier mariage du dauphin, le dauphin, fils de Louis XV, va effectuer dans ces années-là deux mariages successifs, puisque sa première épouse, une infante d'Espagne, ne survivra. Alors à la cour, bien entendu, on a déjà repéré l'intrigante, que ce soit lors du bal paré dans la salle des manèges ou au grand bal des ifs dans la galerie des glaces, les belles concurrentes ont fait des gorges chaudes sur cette grisette, surgit d'on ne sait où, mais sûrement pas de la cuisse de Jupiter. En fait, c'est pas du tout une grisette. Madame de Pompadour est issue, qu'on le veuille ou non, du milieu de la haute finance parisienne. Ça aussi, nous allons y revenir dans un instant. Elle n'est certes pas du tout une dame du sérail, elle n'appartient pas à la cour, mais elle ne sort pas du tout non plus du ruisseau. Plus on avance vers le but fixé et plus les petits coups de pouce du lobby sont précis et calibrés. Vers la fin des festivités de cette année 1745, le souverain a donné rendez-vous à Jeanne à Paris, à l'hôtel de ville, pour le grand bal offert par le prévôt des marchands, l'équivalent du maire de Paris d'aujourd'hui. On a conduit la jeune femme bien ponctuellement et puis on lui a repris la voiture stratégiquement. Car que fait un galant homme en pareil cas? Eh bien, il reconduit sa belle. Et de fait, c'est ce que Louis XV, par souci de discrétion ce soir-là, il circule dans un gros fiacre de louage. C'est ce que va faire Louis XV. Il se fait fort de raccompagner Madame le Normand d'Étiolle. Chemin faisant, il osera pousser l'intimité sans doute un peu plus loin. Et on dit que cette nuit-là, la voiture est restée garée longtemps devant la porte de la dame. Enfin, devant la porte de l'hôtel de Tournehem, car vous avez bien compris que dans cette affaire, elle est toujours, qu'on le veuille ou non, la protégée, elle est toujours la filleule. Certains disent même qu'elle serait la fille naturelle de Monsieur de Tournehem.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Madame de Pompadour.
Désormais, une voiture aux armes de Monsieur de Tournehem, encore une fois, autrefois on disait de tournant, hein. D'ailleurs ça faisait plus français, de tournure, emmène la jolie Madame Lenormand d'Étiol à Versailles chaque matin, ou presque, et il la ramène à Paris le soir. Tout ça dans la plus grande discrétion. Autrement dit, le roi prend tout sans rien donner de concret en échange. Ah, ça ne va pas pouvoir durer. Et d'autant moins que Sa Majesté semble très entichée, comme jamais, assure le duc d'Ayen, qui est l'un de ses familiers, un des membres du cercle royal. Les personnes qui, dans la coulisse, tirent les ficelles, décident de bousculer un peu la marche des événements. Notamment le parrain de la belle dame, sans faire de détour, va lui dicter une lettre alarmante où l'épouse en faute est censée s'angoisser du retour prévisible de son mari qu'on avait envoyé en mission en province. Elle a peur de la violence conjugale, elle attend une réponse du roi. La manœuvre portera ses fruits. Reinette a pris soin, en remettant la missive, d'avoir les yeux tout embués de larmes. Le soir même, elle couche à Versailles, sous le toit du roi, comme on dit, tout près de sa chambre. On va lui octroyer pour le moment l'ancien appartement d'une des sœurs de Nel. Et là, on peut dire qu'au sein du petit milieu qui la pousse, qui la soutient, qui s'attache à son aventure, on se congratule. Tout ça est rondement mené. Cependant, les plus réalistes estiment que cette position clandestine n'est encore pas suffisante. C'est une vraie favorite dont on a besoin pour faire de bonnes affaires. Pas d'une amoureuse que l'on déroberait à la vue des courtisans. Alors on va la pousser à se montrer. La voilà qui paraît au spectacle dans la salle des manèges. « J'aurais voulu vous voir, lui dit le roi. Sire, il ne tient qu'à vous. » Le lendemain, le roi paraît à une petite représentation des comédiens italiens. La foule attend après la sortie de la reine. De sa loge, le roi jubile. On peut dire que maintenant la liaison est plus ou moins officielle. Pour Tournehem et pour les siens, ça demeure encore insuffisant néanmoins. Pour Jeanne aussi, qui voudrait pouvoir régler une fois pour toutes la question de l'époux indésirable. C'est alors qu'on lui souffle une idée, plus forte encore que les précédentes, il vous faudrait un titre. Comment ça un titre? Mais oui, un titre qui vous mettrait à l'abri, un titre, madame. Faut-il donc y songer déjà, répond Louis XV. On lui en propose plusieurs en vacances. Elle choisit Pompadour, en souvenir d'une voisine de Soisy sous Étiol. Seulement, le titre ne saurait être repris sans les terres qui vont avec. Celles de Pompadour se situent en Dordogne. Or, elles sont depuis la Régence propriété de la famille de Conti, qui évidemment en réclame un bon prix. Il n'y a pas de petites occasions. Or, le roi ne veut pas s'abaisser à ordonner une telle dépense au contrôleur général des finances, le rigoureux monsieur Horry. Qu'à cela ne tienne, le petit lobby est là pour ça, n'est-ce pas? En quelques heures, la somme exigée se trouve réunie et c'est sans aucun effort que Jeanne entre en possession du marquisat de Pompadour, et dès lors on va pouvoir l'appeler Madame de Pompadour, ce qui ne veut pas dire que la jeune femme ait entièrement les manières de la cour, les bonnes façons comme on disait. Le roi qui s'en va guerroyer dans les Flandres, c'est l'année victorieuse de Fontenoy, le roi suggère à sa nouvelle amie de mettre à profit son absence pour se dégrossir de ce côté-là, et on va lui choisir deux maîtres de conduite, Gontaut et Bernice, et la voilà qui va passer donc l'été à Étiol chez Tournehem. On fait même venir un très grand personnage pour lui donner le dernier petit coup de vernis. Ce sera Voltaire en personne que l'on charge de la circonstance. Alors il est là pour surveiller notamment que la nouvelle Madame de Pompadour sait parfaitement comment réagir dans diverses occasions. On dit qu'un jour, on sert notamment à table des cailles qui sont un petit peu dodues. Et Madame de Pompadour, puisque c'est ainsi qu'il faut désormais la nommer, dit « Oh, je les trouve grassouillettes !» Alors ça ne plaît pas, et Voltaire envoie un billet sous la table à la dame. Grassouillette, madame, est bien un peu caillette. Je vous le dis tout bas, belle pompadourette, lui dit-il. En fait, les leçons de Monsieur de Bernis et de Monsieur de Voltaire vont porter leurs fruits. On peut dire que c'est une jeune marquise transfigurée qui reviendra d'Étiol pour accueillir le roi retour du front. Elle est devenue, alors là, vraiment une Madame de Pompadour. Elle va pouvoir, dans les semaines qui suivent, être présentée à la cour. Elle imagine que pour elle, c'est le début d'un grand, d'un très grand bonheur. Laissez-moi vous dire, et nous allons détailler tout cela avec Evelyne Levert, qu'il s'agirait plutôt pour elle d'un malheur, comme elle le constatera et comme elle ne le constatera que trop au fil des années. Ce dimanche 15 avril 1764, il y a donc exactement 250 ans aujourd'hui, à 7h30 du soir, Jeanne-Antoinette Poisson, dame Lenormand d'Étiol, marquise de Pompadour, avec les avantages de duchesse, se détache doucement de ce monde. Le roi est le premier averti. Il décommande le grand couvert et se retire dans l'intérieur avec ses plus familiers. Vers 8 heures, la duchesse de Pralin aperçoit une civière qu'on sort par le passage voûté de la chapelle. Elle y discerne bien tous les contours d'un corps de femme et elle comprend que c'est le vôtre, madame, qu'on emporte aussi cavalièrement, la coutume interdisant qu'un défunt reste ne serait-ce qu'un moment sous le toit du roi. La nouvelle se répand vite à travers le royaume. Étrangement, elle ne rencontre aucun mauvais esprit que silence et tristesse. Les chansonniers, les libellistes, ceux-là même qui vous ont éreinté vivante, vont vous respecter dans la mort. Il est vrai que le courage dont vous avez fait preuve dans la maladie vous a gagné la sympathie de l'opinion et qu'on finira bientôt par vous trouver des mérites. Les philosophes et les artistes, plus que d'autres, mesurent la perte qu'ils viennent de faire. La plupart de ceux qui professent les idées nouvelles vous pleurent sincèrement, conscients de n'avoir plus désormais de défenseurs efficaces en haut lieu. C'est pour eux, comme l'écrira Voltaire, un beau rêve de fini. Bonjour Evelyne Levert.
Bonjour Franck.
Nous avons vu, si je puis dire, les deux extrémités de cette vie tout à fait hors du commun. Le début de la faveur de la toute jeune Madame Lenormand d'Étiolle et puis, il y a 250 ans, sa mort à Versailles. 20 ans d'un règne sans partage à Versailles. C'est ce qu'avec vous nous allons détailler dans un instant.
Philippe Bravo sur Europe 1, un extrait de la tragédie lyrique d'Ardanus. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, de la mort de Madame de Pompadour avec votre invité, l'historienne Evelyne Levert.
Alors Evelyne Levert, je le disais, il faut peut-être revenir d'un mot sur l'origine de Madame de Pompadour. Ses parents sont des gens assez modestes, mais ils sont au service de très puissants financiers qui vont tellement bien l'entourer qu'on peut dire qu'elle a été divinement élevée, cette jeune fille.
Elle a reçu une éducation tout à fait exceptionnelle, une éducation à la fois une éducation intellectuelle, elle a beaucoup lu, elle sait chanter, elle sait danser, elle sait jouer la comédie, et c'est l'époque où le théâtre de société est bien fait florès, et à ce moment-là, on voit la jeune mademoiselle Poisson qui, chez le Normand de Tournehem, eh bien, joue la comédie et Voltaire même est là et dit qu'elle joue divinement bien alors qu'elle a une quinzaine d'années.
Ça, c'est un aspect important du personnage,
oui.
C'est le théâtre.
Le théâtre.
Elle va jouer au théâtre pendant toute la période d'ailleurs où elle est la maîtresse du roi, où la liaison est une liaison physique, disons sexuelle avec le roi. Elle est quasiment une actrice. Hein. Elle joue considérablement, très souvent devant la cour, même devant la reine d'ailleurs.
Oui, et elle est la star. Et quand on est, elle a bien sûr les grands rôles, les beaux rôles, et elle sait aussi chanter, elle chante des airs d'opéra.
C'est Rameau qui lui compose des airs pour elle.
Oui, et de ce fait, elle se met en valeur devant son amant, et aussi eh bien, devant toute la cour. Et c'est le roi qui demande à Marie Leczinska, la reine, eh bien, de venir applaudir sa maîtresse. C'est quand même une situation assez particulière.
Alors évidemment, jusqu'ici, les favorites royales avaient appartenu à la haute aristocratie. En tout cas, sous le règne, par exemple, de Louis XIV, on avait la duchesse de la Vallière, la marquise de Montespan. Enfin bon, alors, Madame de Maintenon, c'était moins le cas, mais Madame de Maintenon, d'ailleurs, n'est pas vraiment une favorite royale. C'est l'épouse morganatique du roi.
C'est aussi un cas très particulier.
C'est un cas très particulier.
Qui frappe beaucoup la jeune Madame de Pompadour.
Évidemment, parce qu'elle se dit qu'à partir de là, c'est possible pour elle aussi.
Tout est possible. Marie Leczinska va peut-être vieillir, va peut-être mourir. Et sait-on jamais, puisque Louis XIV a quand même épousé une femme qui n'était pas née et qui était à des années-lumière sur le plan social, évidemment, de lui.
Et qui était même la petite-fille d'un protestant.
Oui, et elle était née en prison. Donc c'était quand même...
Ça laissait une certaine marge.
Oui.
Alors, ce qui est fascinant, sinon avec la jeune Madame Lenormand d'Étiolle, donc oui. C'est le nom qu'elle se donne, disons, à partir de cette propriété d'Étiolle, c'est qu'elle a cette ambition extraordinaire, elle est fascinée par le roi, par la royauté. Il ne faut pas oublier que c'est quasiment une passion d'enfance chez elle, c'est comme si elle avait été très tôt programmée pour devenir favorite.
Elle est programmée pour cela. Et puis alors il paraît qu'il y a une voyante qui lui a prédit qu'elle serait la maîtresse du roi. Et d'ailleurs c'est vrai, ça ne tient pas de la légende puisque dans son testament, elle laisse à cette voyante eh bien, une certaine somme d'argent. Donc elle est fascinée par le roi, mais d'ailleurs, il faut quand même dire que le roi est quand même un personnage extrêmement séduisant. Il est jeune, il est beau et il est le roi. Donc c'est un personnage hors du commun. Et
il est le bien-aimé.
Il est le bien-aimé.
L'été de la liaison entre Louis XV et Madame de Pompadour va devenir officielle, donc cet été 45, c'est l'été de Fontenoy, c'est le moment où la popularité de Louis XV atteint des sommets.
C'est à son maximum, parce que l'année précédente, il avait failli mourir, et là, il avait été surnommé le bien-aimé. Donc, c'est le bien-aimé, et automatiquement, elle est attirée par cet homme. Et on lui a toujours dit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'elle était un morceau de roi. Et puis, il y a tout le lobby Paris et Tournoem. Et alors, elle a une mère qui aussi a toujours couché utile.
Ah,
et c'est
mère.
Autour de sa mère que s'est constitué ce lobby. Alors, la mère a beaucoup servi les Paris et le Normand de Tournoem. Et la fille doit continuer à rendre les mêmes services. Donc c'est tout à fait bien organisé. Mais il faut bien savoir aussi une chose, c'est que le roi, à la différence de Louis XIV ou de Henri IV que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est que le roi ne choisit pas ses maîtresses comme ses précédents, comme ses prédécesseurs. Il faut qu'on lui apporte des femmes.
Et il est d'une timidité presque maladive, en fait. Oui. Il faut presque tout faire à sa place. Et alors, on lui a donné, si je puis dire, comme maîtresse successive, quatre sœurs. La même famille, oui. Hein, la famille de Nesle, grande famille de France.
Très grande famille, les Mayinelle, bon, c'est vraiment le summum de l'aristocratie.
Et alors, les quatre sœurs se sont succédées dans le lit du roi.
Alors, ils viennent perdre au mois de décembre la dernière, qui est la duchesse de Châteauroux, et ils rencontrent Madame de Pompadour au mois de février. Bon, il est très dépressif, et puis d'un seul coup, le voilà qui reprend du poil de la bête, pardonnez-moi l'expression, et il est amoureux de Madame de Pompadour, enfin de celle de Madame d'Étiol, plus exactement.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre concernant cette Madame de Pompadour, et je rappelle pour les auditeurs qui nous retrouveraient en cours que nous célébrons aujourd'hui le 250e anniversaire de la mort de Madame de Pompadour, c'est qu'il y a eu deux périodes dans sa faveur. Il y a une première période qui dure 5 ans, de 1745 à 1750, pendant laquelle elle est la maîtresse du roi. Et puis à partir, et ça on va y venir tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, à partir de 1750, elle va accomplir cet exploit incroyable de rester la favorite en titre sans être la maîtresse du roi. C'est-à-dire qu'elle ne dort plus avec lui, si je puis dire.
Alors c'est un cas extraordinaire parce qu'il y a une reine, qui est Marie Leczinska, qui ne partage plus la couche du roi. Il y a une maîtresse en titre qui ne partage plus la couche du roi, mais qui est l'amie nécessaire et qui est la maîtresse par les sentiments de Louis XV. Et elle s'arrange pour qu'il ait les joies du lit avec des jeunes personnes vierges de préférence.
Et qu'on évacue très vite.
Qu'on évacue très vite et qui sont, elles, les filles qui ne sont pas du tout nées, qui sont pratiquement vendues. C'est la fameuse histoire du parc aux cerfs.
Alors, la première période, celle de 1745 à 1750, c'est bien une liaison classique, si je puis dire, avec une maîtresse royale. Mais on dit que Madame de Pompadour n'est pas très douée pour la bagatelle.
Elle n'est pas très douée pour la bagatelle parce qu'elle a des problèmes de santé qui seraient résolus très facilement. Ce sont des problèmes d'ordre gynécologique qui seraient très facilement résolus aujourd'hui avec une série d'antibiotiques, mais qui, à l'époque, eh bien, ne peuvent pas se soigner. D'autre part, elle a quand même des bronchites à répétition. Donc, c'est une malade, mais c'est une femme qui a une force de vie extraordinaire et qui soutient en permanence le roi qui est un grand dépressif. Et elle puise en elle une force fantastique pour aider le roi lui aussi à vivre. Et elle le distrait sans arrêt. Et c'est avec cela qu'elle règne sur lui dans les débuts.
Elle va inventer, si j'ose dire, à Versailles, la notion d'intimité qui était née un tout petit peu avant elle, mais à laquelle elle va donner toute son importance. Elle crée les fameux soupers des cabinets, c'est-à-dire que le roi reçoit, comme ferait un riche bourgeois, il reçoit des amis à sa propre table, chose invraisemblable du temps de son arrière-grand-père. Et Madame de Pompadour est l'âme des fameux soupers. Elle organise les voyages, la cour est en perpétuel déplacement. Elle organise les soirées de théâtre et d'opéra, vous l'avez dit, et de ballet. Bref, elle fait en sorte que Louis XV ne s'ennuie pas, ce qui est très difficile chez ce grand neurasthénique, évidemment.
Et alors, dans ces fameux soupers, eh bien, on discute, on parle, on s'amuse, on joue aux cartes, et le roi dit de temps en temps à sa maîtresse, eh bien, maintenant, allons nous coucher. Et tout le monde s'en va aussitôt. Et alors, les petits voyages qu'elle organise ne sont pas des voyages avec toute la cour, ce sont des voyages avec quelques favoris, si bien que le roi est un peu inaccessible, Et évidemment, on le reproche beaucoup à Madame de Pompadour.
C'est le début d'une espèce d'acrimonie qui un jour culminera dans la Révolution française. Il faut le dire, il y a une sorte de divorce du roi et de l'opinion. C'est-à-dire qu'elle va quand même, et ça c'est un des griefs qu'on peut faire à Madame de Pompadour, elle va le couper de la cour d'une part et au-delà de la cour du peuple.
Oui. Et d'ailleurs,
elle l'éloigne en quelque sorte.
Louis XV s'en rend très bien compte en 1757, au moment où il y a une tentative d'assassinat contre lui. Il dit maintenant, c'est l'affaire d'Amiens, et il dit maintenant, je suis plus le bien-aimé, je suis le bien-haï. Et elle-même est détestée, et on insiste beaucoup auprès du roi pour qu'il se sépare de cette femme qui l'éloigne de tout. Et jamais Louis XV ne se séparera de Madame de Pompadour, qui est à la fois devenue, à partir de 1750, à partir du moment où elle n'est plus une maîtresse couchante, mais où elle reste sa maîtresse. Et plus le désir s'éloigne, et bien plus la force de Madame de Pompadour se fait sentir sur l'esprit du roi.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette Madame de Pompadour, qui n'est donc plus la maîtresse du roi à partir de 1750, elle n'a plus d'efforts à fournir, si je puis dire. On l'a vu se gaver de chocolat, d'épices, de gingembre, enfin de tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de l'échauffer un peu sa nature, la pauvre. Mais à partir de 1750, elle n'est plus que l'amie, la conseillère, mais elle devient une sorte de premier ministre de l'ombre. Elle va jouer un rôle essentiel dans deux grands domaines. D'abord, évidemment, le magistère des arts. Elle devient une sorte de super ministre de la culture. On va y venir dans un instant. Et puis, aussi et surtout, elle va jouer un rôle politique et diplomatique à l'échelle la plus élevée en Europe. Et nous allons voir quelle a été l'influence politique de Madame de Pompadour.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire avec votre invitée, l'historienne Evelyne Levert. Vous nous parlez cet après-midi de la mort de Madame de Pompadour.
Et oui, il y a donc 250 ans, Madame de Pompadour rendait l'âme à Versailles. Elle était arrivée à Versailles en 1745. Elle y meurt donc le 15 avril 1764. Presque 20 années de faveur ininterrompue. Elle qui a pensé quitter la cour tous les 3 mois, si je puis dire, Evelyne Levert. Elle a vécu dans une sorte d'inquiétude permanente. Elle pensait que le roi allait la renvoyer ou qu'elle-même devrait prendre les devants et s'en aller. Et finalement, elle est toujours là.
Elle est toujours là parce que le roi a besoin d'elle. Le roi a besoin d'elle parce qu'elle est sa confidente. Il lui dit tout, vraisemblablement. Il lui donne des secrets d'État et il sait que cette femme ne parlera jamais. Et le soutient toujours dans le sens qui est le sien à lui. Et c'est ça l'intelligence de Madame de Pompadour pour demeurer en place, c'est de ne pas faire passer ses idées à elle, mais de soutenir ses idées à lui. Et ça, il le sait, et c'est toujours elle qui le réconforte. C'est toujours elle, sa solidité. Et vous savez que peu de temps après son ascension, Madame de Pompadour s'était fait livrer tout ce qu'il y avait, tous les textes possibles sur Madame de Maintenon. Parce qu'elle se demandait comment cette
femme... C'était son modèle en fait. Hein.
C'est son modèle. Et puisque Louis XIV appelait Madame de Maintenon « votre solidité », elle devient en quelque sorte la solidité de Louis XV. Seulement Louis XIV... politiquement, était infiniment plus fort et plus conscient, si vous voulez, des nécessités de la politique que ne l'est Louis XV.
Alors on a ces portraits extraordinaires, ceux de Boucher, qui ont été d'ailleurs déclinés dans plusieurs variantes. Il y a 2 grands portraits de Boucher qui ont donné au total 7 ou 8 toiles différentes. Mais si vous regardez bien, c'est la même toile avec des décors différents. C'est d'ailleurs assez fascinant. Une profusion d'étoffes, un raffinement, un luxe extrême. Madame de Pompadour vit dans un luxe qui sans doute est le luxe le plus étourdissant qu'on ait jamais vu dans toute l'histoire de l'Ancien Régime. C'est extraordinaire. On voit d'ailleurs aussi un luxe de l'esprit d'une certaine manière, puisque sur le grand pastel de la Tour, qui est l'un des plus célèbres tableaux du Louvre, sur ce magnifique portrait de Madame de Pompadour en 1758, on la voit entourée de l'esprit des lois de Montesquieu, d'un volume de l'encyclopédie qu'elle a contribué à faire éditer. Voilà une femme qui remplit un magistère essentiel dans le domaine des arts et de l'esprit.
Oui. On est à une période qui est extrêmement riche sur le plan intellectuel et au début, elle a essayé de soutenir les philosophes. C'est elle qui a voulu imposer Voltaire à Louis XV. Elle connaissait Voltaire depuis longtemps. Voltaire, qui lui était un excellent courtisan, avait fait la cour à cette jeune femme en se disant qu'elle allait véritablement s'élever. Et disons que Louis XV a toujours été hostile à l'esprit des philosophes. Et lorsque Diderot a voulu fonder l'encyclopédie, Madame de Pompadour a défendu le projet. Louis XV a été dans très très réticent et c'est elle qui l'a imposé à Louis XV. Et elle fait faire son portrait par Latour, justement, avec l'encyclopédie. L'encyclopédie, l'histoire de l'encyclopédie est très compliquée. Elle écrit à Diderot parce qu'il y a des articles qui sont hostiles à la monarchie. Elle écrit à Diderot en lui disant qu'il faut qu'il modère ses idées. Diderot n'acceptera pas les conseils que lui donnera Madame de Pompadour. Et de ce fait, l'encyclopédie continuera quand même. Et elle a l'air d'être la patronne de l'encyclopédie. Mais si elle était restée Madame d'Étiolle, elle aurait été d'esprit philosophique. Mais elle sait qu'avec Louis XV, elle ne peut pas.
En fait, c'était Marc Fumaroli qui disait hier soir, et c'est vrai, que lorsqu'on lit les rapports d'entretien de Madame de Pompadour, par exemple avec le premier président du Parlement de Paris, le président Ménière, sur la querelle entre la couronne, entre le roi et les parlements, justement, on se rend compte du degré de connaissance et d'intelligence politique de Madame de Pompadour. Elle est au plus haut niveau. C'est un Richelieu ou un Mazarin en jupon, si je puis dire.
Elle affirme les principes de l'absolutisme devant le président du Parlement qui est en train de lutter contre l'absolutisme. Et il dit, le président de Manière, qui est fasciné par cette femme, et il dit elle était droite comme un jonc. Après une conversation dont on a la totalité. Et Madame de Pompadour défend l'absolutisme alors que vraisemblablement, dans d'autres circonstances, eh bien, elle aurait été du côté des parlementaires.
Oui, elle était d'un milieu qui se rapprochait beaucoup des parlementaires. Évidemment, elle les connaissait intimement et c'est ce qui explique sans doute qu'elle ait été si excellente en matière de politique intérieure. C'est beaucoup moins vrai quand on parle de la politique extérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle est allée faire dans ses affaires diplomatiques?
Non, mais alors, elle n'a pas joué un grand rôle sur le plan diplomatique. Elle a simplement était la confidente du roi une fois de plus, parce qu'il s'agissait du renversement des alliances, c'est-à-dire d'une alliance qu'on allait conclure avec l'Autriche. Et Madame de Pompadour a prêté sa maison à l'ambassadeur de Marie-Thérèse.
C'était Bellevue, en l'occurrence, et surtout un petit pavillon qui s'appelait Brimborion.
Oui, alors donc c'est très très discret. Et là, Bernice, ministre, reçoit Starhemberg qui fait des propositions d'alliance à la France. Ça se passe chez Madame de Pompadour. C'est tout. Madame de Pompadour, mais non, Madame de Pompadour ne joue pas de rôle politique, mais à partir du moment où elle comprend que Louis XV veut cette alliance, elle soutient Louis XV dans sa volonté de s'allier avec Marie-Thérèse.
Et c'est ce renversement d'alliance va conduire évidemment à la guerre en Europe de façon très rapide.
Oui,
ça va être la célèbre guerre de 7 ans qui est une catastrophe. Or, elle joue là encore un rôle important. On dit qu'elle nomme les généraux, qu'elle les révoque, qu'elle suit l'avancée des armées en mettant des mouches, des petites mouches, c'est-à-dire des accessoires de cosmétiques sur les cartes géographique. Est-ce que c'est vrai tout ça?
C'est tout à fait exact. Et j'ai retrouvé des lettres complètement inédites qui dormaient dans le fond Richelieu. Et bien, dans ces lettres, elle tense les militaires et les plus hauts gradés, bien sûr. Elle tense les généraux. Elle leur dit ce qu'ils doivent faire. Alors, ont-ils écouté? Certainement pas. Mais enfin, elle se permet de prendre de grands airs. Bien sûr, elle a l'aval du roi. Elle ne fait rien en dehors de l'aval du roi. C'est ça qui est intéressant. Donc ce n'est pas elle qui dirige, c'est le roi qui dirige et qui se sert d'elle.
Alors il y a un domaine où l'influence extrême de Madame de Pompadour est aujourd'hui encore parfaitement admise. Personne ne songerait à lui contester la primauté totale en matière de style, de goût. Elle est une sorte de super ministre de la culture, je disais. Il faut dire qu'elle a fait nommer son frère, son propre frère, Abel Poisson, marquis de Vandières, qui va devenir le marquis de Marigny. Elle l'a fait nommer à la surintendance des bâtiments. Et à eux deux, si je puis dire, ils financent tous les arts de France. Elle va créer la manufacture de porcelaine, par exemple.
Oui, elle crée la manufacture de Sèvres. Elle a fait construire également L'école militaire,
oui.
Elle a soutenu les plus grands architectes du temps, Gabriel bien sûr, mais aussi Soufflot qui est l'architecte disons le plus moderne du temps. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle soutient les artistes quel que soit leur goût et le sens dans lequel ils vont. Elle soutient les artistes comme Boucher, par exemple, qui est...
On parle d'un style Pompadour, en fait, il n'y a pas vraiment un style Pompadour.
Et de toute façon, il n'y a pas, ça n'existe pas, le style Pompadour. C'est vers à la fin du 19e siècle, on refera du 18e alambiqué et
un peu rocaille, comme ça.
Totalement
oui.
Rococo au sens péjoratif du terme, mais pas du tout. Elle, c'est une femme qui a un grand goût, qui a le sens du décor. Elle est décoratrice et elle soutient aussi bien Boucher que Vien, par exemple, qui est le précurseur de David. Donc elle va,
déjà dans un sens néoclassique.
Sens néoclassique, tout en aimant le rocaille. Elle a des goûts très éclectiques et elle se rend compte qu'on est à un moment de mutation. Ce sont les artistes qui ont le goût et qui imposent et elle ne choisit pas, elle choisit les meilleurs, c'est
Je
tout.
Je vais faire un clin d'œil à mon ami Jacques Garcia.
Oui.
Il est vrai que lorsqu'on connaît bien ce mobilier, ce très grand mobilier du XVIIIe siècle, les bronzes, les objets montés, les faïences qui sont montées sur des bronzes extraordinaires, etc., on peut reconnaître à la longue avec l'habitude, on peut reconnaître un objet qui a appartenu à Madame de Pompadour, c'est tout simplement le plus ébouriffant, le plus luxueux, le plus extrême, le plus raffiné possible. Cette femme a poussé le luxe à un degré qu'on n'avait jamais connu jusqu'alors, on peut le dire.
On peut le dire. Et d'ailleurs, après sa mort, la vente aux enchères de ses biens a duré un an. C'est pour... Bon, elle avait 2000 porcelaines.
Elle avait 17 propriétés, des châteaux partout.
Oui, des meubles exceptionnels. Et ce sont toujours les plus grands ébénistes. Et aujourd'hui, les meubles de Madame de Pompadour, s'ils passent aux enchères, c'est le must, comme on dit.
Et puis, il y a une chose dont on n'a pas eu le temps de parler, parce qu'il faut que je rende l'antenne, mais qui est très importante, et je pense que les auditeurs l'auront compris dans tout ce qu'on disait, c'est l'ambition dévorante de cette femme. Depuis l'enfance jusqu'à la mort, elle aura été propulsée par cette espèce de moteur d'ambition. Merci infiniment, Evelyne Levert. Je rappelle évidemment que vous êtes la biographe de Madame de Pompadour et qu'on trouve votre ouvrage naturellement, j'ai envie de dire, chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un tout petit instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Sophie qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission où, je vous le rappelle, nous avons passé la barre des 25 000 auditeurs. Sophie, notre auditrice, souhaite connaître l'origine du mot conclave.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sophie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Sophie qui voudrait que vous reveniez sur l'origine du mot conclave.
Voilà une question très claire qui appelle une réponse qui ne le sera pas moins. Conclave, ça vient de cum clavis, c'est-à-dire avec clé. Autrement dit, c'est une réunion sous clé. Ça désigne, vous savez, cette réunion des cardinaux lorsqu'ils vont élire le pape et qui sont dans une pièce close. Alors pourquoi cette pièce close et depuis quand? Eh bien, il faut remonter à 1271 et à la réunion des cardinaux dans la ville de Viterbe en Italie, pour savoir exactement ce qui s'est passé. À l'époque, les cardinaux n'arrivent pas à s'entendre sur le nom du nouveau pape. Ça va durer des mois, cette affaire. Ça va durer deux ans et demi d'incertitude. Et c'est finalement Saint Bonaventure qui va suggérer au seigneur de Viterbe d'enfermer les cardinaux dans le palais épiscopal. On ne leur donnera que du pain et de l'eau. Alors là, pour des cardinaux de l'époque, vous imaginez que c'est une sévère punition. Et assez vite, ça marche, puisqu'on va élire un pape, ce sera Grégoire X. Lors du concile de Lyon en 1274, les 500 évêques réunis ont officialisé cette clôture des cardinaux jusqu'à l'élection d'un pape. On peut dire qu'à ce moment-là, le conclave est définitivement institué et en 1276, Innocent V est le premier pape élu par un conclave à proprement parler. Et ça ne dure pas longtemps, c'est efficace cette méthode. En 24 heures, le pape est élu. Les cardinaux se réuniront ensuite dans la chapelle Sixtine, vous le savez. Le premier des conclaves qui aura lieu dans cette chapelle Sixtine, c'est celui de 1492. l'année de la découverte du continent américain par Christophe Colomb. Alors, évidemment, vous avez tout le long protocole qui aboutit à l'élection du pape, puis à sa proclamation, lorsque la fumée blanche remplace la fumée noire. Habemus papam, nous avons un pape. À ce moment-là, il est toujours temps de libérer les cardinaux. Une petite anecdote sur les deux conclaves les plus rapprochés. Le pape Urbain VII meurt du paludisme le 27 septembre 1590. Ça, c'était juste 13 jours après son élection. Eh bien, tant pis pour les cardinaux. Les voilà enfermés de nouveau, puisqu'un nouveau conclave a lieu le 8 octobre de la même année, et dont sortira le pape Grégoire XIV.